Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Une nouvelle nuit de manifestation à Portland, aux États-Unis. Une première à l'appel de l'extrême droite a rassemblé environ 500 personnes en hommage à l'un des leurs, tué une semaine plus tôt par un homme se réclamant de la mouvance antifasciste. Et celle de Black Lives Matter contre les crimes racistes est toujours en cours, Grégory Phillips.
Pour la centième nuit, ils se sont cette fois donné rendez-vous dans un jardin public à l'est de Portland. Ils sont peut-être 2 à 3 000 à marcher maintenant vers l'un des commissariats de la ville pour une nouvelle fois dénoncer les violences policières à l'égard des Afro-Américains. Voici Jerry qui se présente ainsi.
Sur mon t-shirt, j'ai écrit « Je suis un habitant de Portland, un vétéran de la marine et un père de famille. On est là pour dire que les vies noires comptent. Il y a 100 jours, on a réalisé que les brutalités policières étaient hors de contrôle. On ne rentrera pas chez nous tant que nos frères et sœurs ne seront pas traités humainement. »
Le cortège rassemble des militants Black Lives Matter, mais aussi des anarchistes, des radicaux. Beaucoup sont casqués et visiblement prêts à l'affrontement, pas avec les groupes armés d'extrême droite qui ont manifesté plus tôt dans l'après-midi, mais bien avec les forces de l'ordre. La police passe avec des haut-parleurs pour dire que le rassemblement est interdit. Stacy est venue de l'État voisin de Washington.
Je suis là parce que je crois que la situation va empirer. C'est très tendu. Certains historiens pensent que le pays n'a pas été aussi divisé depuis la guerre civile.
Puis les premiers tirs de gaz lacrymogène, la foule des manifestants recule. Ce rassemblement est considéré comme une émeute, prévient la police. Vous devez immédiatement quitter les lieux. La nuit ne fait que commencer.
Grégory Phillips à Portland pour France Culture. On l'apprend à l'instant, plusieurs personnes ont été poignardées à Birmingham, la deuxième ville de Grande-Bretagne, selon un communiqué de la police britannique. Sans plus de précision pour l'instant, on y reviendra dans nos prochaines éditions. Deux soldats français de la force Barkhane ont été tués en opération au Mali hier matin. Un autre est grièvement blessé. L'attaque a été revendiquée par une branche d'Al-Qaïda. Les deux soldats tués appartenaient au 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes. Ils sont morts à la suite de l'explosion de leur véhicule blindé causée par un engin explosif artisanal. L'Allemagne fait monter d'un cran la pression sur Moscou dans l'affaire Navalny. Berlin, qui préside actuellement l'Union européenne, menace de sanctions faute de réponse dans les prochains jours sur l'empoisonnement avéré, selon Berlin, de l'opposant du Kremlin, Alexei Navalny. L'Allemagne, qui a connu une troisième soirée de violence consécutive à Leipzig contre la hausse des prix de l'immobilier et des loyers, jets de pierres et voitures de police brûlées cette nuit pour ce mouvement de contestation à l'appel de l'extrême gauche. Deux policiers ont été légèrement blessés et une quinzaine de personnes interpellées. Près d'un millier de personnes dans les rues de Rome contre le port du masque obligatoire hier, alors que l'Italie a été le premier pays européen à être gravement affecté par la pandémie de coronavirus et à imposer le confinement. Le pays a enregistré depuis le début de l'épidémie près de 275 000 contaminations et 35 500 décès. Et alors que vendredi, 1733 nouvelles infections ont été enregistrées, soit le nombre le plus élevé depuis le début du mois de mai, ces chiffres n'ont pas rebuté ces manifestants qui entendent bien dénoncer ce qu'il qualifie de dictature sanitaire, Olivier Tosseri.
Liberté, liberté, le mot est scandé régulièrement par les quelques centaines de manifestants qui se massent en plein cœur de Rome, sur les pancartes des insultes adressées au gouvernement et à l'industrie pharmaceutique, dans les mains des drapeaux italiens, sur les visages, aucun masque. C'est le cas de Valeria qui est venue spécialement de Vénétie.
Même ceux qui ont peur doivent prendre courage, enlever les masques et penser différemment. Plusieurs causes expliquent les morts qu'on a toutes mises sur le dos du coronavirus. Mais qu'il ait été instrumentalisé à des fins politiques pour atteindre d'autres objectifs, cela me paraît évident.
Le but est l'instauration d'une dictature sanitaire promue par les médias. Francesco en est persuadé.
Il y a eu une gestion un peu trop terroriste de la pandémie au niveau médiatique pour créer la peur alors que la situation actuelle ne justifie pas cette narration. Ce qui m'effraie, c'est la perspective d'un vaccin obligatoire qui est, si l'on veut, une violation des droits de l'homme.
Ce qui inquiète le gouvernement, c'est la récente hausse du nombre de contagions. Des personnes pensent que la pandémie n'existe pas. Nous allons leur présenter les chiffres, a réagi le président du Conseil Giuseppe Conte. Il a surtout maintenu les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, comme le port du masque et la distance sociale, des règles approuvées par la grande majorité de l'opinion publique.
Olivier Tosseri à Rome pour France Culture. Alors qu'en France, l'État fait appel des décisions des tribunaux administratifs de Strasbourg et de Lyon demandant aux préfets du Rhône et du Bas-Rhin de modifier leurs arrêtés généralisant le port du masque obligatoire. L'audience est prévue aujourd'hui à 11h au Conseil d'État. Il était le mentor d'Édouard Philippe. L'ancien maire du Havre, Antoine Ruffnac, est mort hier chez lui des suites d'une longue maladie. Il avait 81 ans. Olivia Cohen nous brosse son portrait.
À 37 ans, cet énarque 100% havrais devient secrétaire d'État et le plus jeune membre des deux premiers gouvernements, Raymond Barre. Il est ensuite député de Seine-Maritime, président du conseil régional de Haute-Normandie en 92, soufflant la victoire à son rival socialiste Laurent Fabius, qui l'étreille à l'époque.
Monsieur Ruffnac n'a pu être élu qu'avec les voix de l'extrême droite. Le scrutin est vicié et illégal.
Il lui faut plusieurs tentatives pour décrocher la mairie du Havre, mais la quatrième est la bonne. En 95, il fait choir le Parti communiste et s'installe pour 15 ans. Antoine Ruffnac, fidèle à ses racines et à son parti, malgré ses multiples changements de nom, qu'il commentait avec un brin d'ironie. Écoutez, c'était en 2015, l'UMP devient Les Républicains.
C'est la cinquième fois depuis que je suis dans la vie publique que le parti politique auquel j'appartiens change de nom. J'ai eu l'UNR, l'UDR, le RPR, l'UMP, voilà. C'est une habitude.
Autre fait d'armes, évidemment, avoir été le mentor d'Édouard Philippe. Il démissionne en 2010 de la mairie et lui cède la place. Édouard Philippe qui lui rend hommage dans un tweet. Les mots sont en italien, mais je vous donne la traduction en français. Il s'agit d'un extrait de la Divine Comédie de Dante. Tu es mon guide, mon seigneur et mon maître. Ces mots, Édouard Philippe les avait prononcés dans son discours d'intronisation à la mairie du Havre en 2010.
Olivia Cohen de France Bleu, Normandie. Un temps sec et lumineux presque partout ce matin, à l'exception de quelques averses possibles sur l'île de France. Alternance de nuages et d'éclaircies en majorité sur le territoire cet après-midi. La pluie pourrait s'étendre à la Bretagne et à la Picardie. Grand ciel bleu en revanche sur l'Auvergne, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur aussi toute la journée. Les températures ce matin, 11 à 22 degrés avec 11 degrés à Nantes, 14 degrés à Paris, 16 degrés à Bordeaux et maximum 22 degrés à Narbonne.